Radio France Internationale, il est 9h30 à Paris, 7h30 en temps universel. L'actualité africaine avec Arthur Ponchelet.
Et à la une ce matin, au moment venu, j'aviserai les mots de Faustin Archange Touadéra hier au stade Barthélémy Boganda de Bangui. Des milliers de personnes étaient réunies pour réclamer un troisième mandat du président centrafricain. Reportage dans les tribunes dès le début de ce journal. Trop c'est trop, la société civile congolaise vend debout contre les coupures de courant à Kinshasa. Elle pointe du doigt les manquements de la société publique d'électricité et appelle les députés à se mobiliser. Au sommaire également. On revient sur la grâce accordée à Moussa Dadis Camara vendredi en Guinée. Et cette question, quid des autres accusés dans le procès du massacre du 28 septembre 2009? On parle aussi du retrait du Niger de la force multinationale mixte. Et puis c'était ce week-end, dans plusieurs pays du continent, les musulmans ont fêté l'Aïd el-Fitr. Reportage en Côte d'Ivoire à la rencontre d'une famille qui a mis les petits plats dans les grands pour rompre le jeûne à la fin de ce journal. Faustin Archange Touadéra laisse planer le doute, mais ses partisans sont unanimes. Ils veulent que le président centrafricain brigue un troisième mandat. La nouvelle constitution offre en tout cas au chef de l'État cette possibilité. Et pour réclamer sa candidature, des milliers de personnes, 20 000 selon le mouvement Cœurs Unis, le parti au pouvoir, étaient réunis hier au stade Barthélémy Boganda de Bangui. Un rassemblement auquel Rolf-Steph Domialeux a assisté pour RFI.
L'hymne national pour donner le ton. Dans les gradins, sympathisants et invités venus soutenir le président reprennent fièrement les paroles pour célébrer la patrie. Adrien Zaba est l'un d'eux.
Je suis là avec toute ma famille pour le soutenir parce qu'il a fait beaucoup de choses. C'est comme un révolutionnaire, quelqu'un qui a un objectif à atteindre.
Les couleurs bleu et blanc du parti présidentiel flottent partout dans le complexe sportif Barthélémy Boganda. Dans son t-shirt blanc à l'effigie du président Faustin Archange Touadéra, Freddy Mapuka explique les raisons de sa présence.
Quand la République est rentrée dans le conflit, il n'y a pratiquement pas d'armée. Et nous sommes aujourd'hui à 24 000 militaires qu'il a recrutés. C'est pour cette raison que je suis venu soutenir le président de la République pour qu'il puisse revenir et continuer, c'est-à-dire les 14 ans qui restent.
Malgré l'enthousiasme de la foule, le président Faustin Archange Touadéra garde le suspense.
Je remercie toutes les voix des associations qui se sont levées pour la poursuite de notre vision pour un Centrafrique libre et prospère. Cependant, ce qui nous importe pour l'instant, c'est la poursuite de mon mandat en cours. Le moment venu, j'en aviserai.
La présidentielle et les législatives sont officiellement prévues en décembre prochain. Rolf-Steph Domialeux, Bangui, RFI.
Et de son côté, l'opposition, réunie au sein du Bloc républicain pour la défense de la Constitution, tiendra, elle aussi, une marche ce vendredi dans la capitale contre un troisième mandat du chef de l'État. Actualité politique aussi au Gabon, où le coup d'envoi de la campagne présidentielle a été donné ce week-end. 8 candidats sont en lice, dont le chef de la transition, le général Oligui Nguema, et l'ancien Premier ministre Alain-Claude Bilibinzé. On vote le 12 avril pour élire un ou une présidente, mais à Libreville, la campagne ne mobilise pas en masse. Reportage à lire et à écouter sur RFI.fr. En République démocratique du Congo, c'est pour former un gouvernement d'union nationale que les consultations reprennent aujourd'hui. Elles ont débuté la semaine dernière. L'opposition boycotte ces discussions, préférant au contraire se concentrer sur le dialogue entamé par les églises protestantes et catholiques. À Kinshasa, c'est le conseiller spécial du président en matière de sécurité qui mène les concertations. Kinshasa, où des organisations de la société civile laissent éclater leur colère. Elles protestent contre les coupures d'électricité intempestives et prolongées dans la capitale. La société publique d'électricité est mise en cause pour sa fourniture jugée médiocre. Trop c'est trop, dit ce matin sur RFI le président de la nouvelle société civile congolaise Jonas Tshombela.
Trop, c'est trop. Il faut que ça s'arrête. Toutes ces coupures intempestives, le délestage prolongé, des pannes généralisées, et cette situation met en péril des vies humaines dans la capitale, paralyse les activités économiques, compromet même l'accès à certains services essentiels, l'éducation et la santé. Ça favorise même l'insécurité dans la ville, la criminalité dans plusieurs quartiers de la capitale. Malgré ces défaillances très devenues chroniques, la SNEL persiste avec sa politique de facturer mensuellement ses clients sans qu'ils soient servis. Tous ces éléments mis ensemble ont poussé la nouvelle civile à lever la voix. Et là, nous exigeons même la démission immédiate des autorités de la SNEL. responsable de cette gestion défaillante et de la souffrance que la population est en train d'en pâtir actuellement. Dans le quartier, c'est la mort. Mais dans le centre-ville, c'est l'économie qui est en train de prendre le coup. C'est une situation généralisée. Et quelle est cette entreprise qui peut être gérée de cette manière sans qu'il y ait des gens qui rendent compte? Où sont passés les députés? Où sont passés les sénateurs? La population est abandonnée elle-même.
Le président de la nouvelle société civile congolaise avec Pascal Moulegua. 16 voyageurs Haoussa lynchés dans le sud-est du Nigeria. Des images partagées en masse sur les réseaux sociaux ont choqué le pays. Les voyageurs ont été pris pour cible par un groupe d'autodéfense locale dans l'état d'Edo, aspergé d'essence et incendié. Le président Bola Tinubu parle d'un épisode particulièrement choquant et demande à ce qu'une enquête soit diligentée pour retrouver les coupables. À l'écoute de Radio France Internationale, 7h36, en temps universel. En Guinée, la grâce accordée à Moussa Dadis Camara continue de faire réagir. Vendredi, le chef de la transition a gracié l'ex-chef de l'État. Il avait pourtant été condamné à 20 ans de prison pour crime contre l'humanité dans le procès du massacre du 28 septembre 2009. Les autorités ne se sont pas penchées sur le sort des 7 autres personnes condamnées dans cette affaire. Parmi elles, Aboubakar Sidiki Diakité, dit Toumba, alors aide de camp de Dadis Camara. Il avait écopé de 10 ans d'emprisonnement. Son avocat, Maître Silla, réclame que la grâce présidentielle soit étendue à son client et à tous les autres condamnés.
Cette mesure qui a été prise en faveur du président Dadis, nous pensons qu'elle doit être au nom de l'équité, au nom de la justice, au nom certainement de l'esprit de réconciliation qui guide le président de la République. Cette mesure mérite d'être étendue à tous les autres condamnés, dont notamment M. Aboubakar Diakité Ditoumba. Nous demandons au président d'aller au bout du chemin qu'il a emprunté, c'est de faire en sorte que son pardon soit accordé à tous ceux qui ont été condamnés pour les mêmes faits. C'est à ce prix que nous allons comprendre qu'il est animé d'une véritable volonté de réconciliation qui ne peut pas se faire dans l'exclusion.
L'avocat de Toumba avec Tanguy Billan, Maître Silla, pour qui le procès en appel ne doit pas pouvoir se tenir en l'absence de Dadis Camara. Plusieurs juristes s'interrogent sur les conditions d'application de cette grâce. Le code pénal guinéen prévoit qu'une grâce ne peut être accordée qu'à une personne condamnée définitivement. Le gouvernement et les autorités judiciaires ne se sont pas encore exprimés sur le sujet. Toutes les réactions à cette grâce de Moussa Dadis Camara à lire sur notre site RFI.fr. La force multinationale mixte chargée de lutter contre les groupes djihadistes dans le bassin du lac Tchad perd l'un de ses membres. Le Niger a annoncé ce week-end se retirer de cette alliance stratégique qui regroupe aussi le Nigeria, le Tchad et le Cameroun. Niamey invoque un redéploiement de ses troupes, notamment pour protéger ses infrastructures pétrolières menacées par les groupes armés. Alexis Guilleux.
Officiellement, Niamey indique que son retrait de la force multinationale mixte a pour but de renforcer, je cite, la sécurisation des sites pétroliers menacés par les groupes armés. Les autorités nigériennes disent vouloir mettre l'accent sur la protection des ressources d'hydrocarbures dans la région de Difa, alors que l'oléoduc qui achemine le pétrole brut vers le Bénin est régulièrement attaqué. Plusieurs attaques ont été revendiquées par des rebelles Toubou qui demandent la libération du président renversé Mohamed Bazoum et le rétablissement de la constitution. Ces derniers mois, les sabotages se sont multipliés à la frontière avec le Nigeria. Même si le sujet n'a pas été mentionné samedi soir, Niamey soupçonne Abuja de tentatives de déstabilisation et reproche aux autorités nigérianes de ne rien faire pour empêcher ces incidents le long de l'oléoduc. Mais selon plusieurs observateurs, ce retrait serait symptomatique des difficultés des forces armées nigériennes. En seulement 6 semaines, 3 attaques attribuées à Boko Haram ont ciblé leur rang, faisant 25 morts et des blessés. Ce retrait du Niger est un coup porté à la force multinationale qui signe aussi la fin des échanges d'informations sur les mouvements des djihadistes, toujours actifs et qui circulent facilement entre les frontières poreuses du bassin du lac Tchad.
Alexis Guilleux, lui, parle de repositionnement des forces. Le chef des paramilitaires du Soudan, le général Emeti, a reconnu hier que les forces de soutien rapide s'étaient retirées de Khartoum, la capitale. Nous reviendrons avec une détermination plus forte, poursuit-il. La semaine dernière, le chef de l'armée, le général Al-Burhan, annonçait la libération libération de la capitale après près de 2 ans d'une guerre meurtrière. L'actualité du week-end sur le continent, c'est l'Eid el-Fitr, célébré par des millions de musulmans hier en République démocratique du Congo, au Tchad, au Mali ou encore au Niger. En Côte d'Ivoire aussi, la fin du Ramadan a été fêtée comme il se doit. Une journée de prière, de partage et de retrouvailles familiales. Illustration dans une famille d'Abidjan qu'Abdoulaziz Diallo a rencontré. Reportage.
Dans cette cour commune d'Abobo, l'effervescence culinaire bat son plein. Les marmites mijotent, les odeurs épicées embaument l'air. Au menu, tchep, poulet grillé, frites et couscous. Le festin se prépare avec soin. Djeneba Silla fait partie des dames au fourneau.
On envoie un peu de tout. Les beaux-frères, les maris, ils sont assis, ils mangent ensemble. Quand il y a la fête, la cour est remplie, nous sommes très 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 contentes.
À la mi-journée, place au repas en famille et entre voisins. Un moment de convivialité qu'attendait avec impatience Boubacar Camara, venu spécialement de San Pedro.
Chaque année, c'est comme ça. Quand Dieu nous donne la fête, on se réunit, on partage ce qu'on a ensemble. C'est une tradition. Depuis nous, on est tout petit. Aujourd'hui, on a grandi, on a notre famille. On essaie de perpétuer cette action-là parce que c'est une action noble.
Heureux d'être entouré de ses enfants et petits-enfants, le père de famille ne cesse d'adresser des prières pour l'avenir. Amara Camara.
Toute la famille réunie, du plus petit au grand. En tout cas, la joie immense. On prie Dieu, le jeûne que nous avons fait, que Dieu n'a qu'à exercer ça. Dieu fasse que l'année prochaine, nous trouvons en bonne santé, prospérité pour tout le monde.
Une journée où spiritualité et convivialité se mêlent, clôturant le Ramadan dans la joie du partage. Abdelaziz Diallo, Abidjan, RFI.
Et si à Abidjan, on a fêté hier l'Eid el-Fitr au Burkina Faso, à Madagascar ou au Cameroun, c'est ce soir que s'achève le mois de Ramadan. On le suivra évidemment sur RFI.fr. Et c'est ainsi que s'achève cette édition consacrée à l'actualité africaine. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez bien à l'écoute de Radio France Internationale puisque RFI Matin continue et c'est avec Marion Kazanov.